Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. France, fiction, histoire des idées reçues de l'histoire de France est un ouvrage collectif dirigé par Yann Bouvier, publié chez First et consacré à la déconstruction de 26 idées reçues qui structurent encore la mémoire nationale. Le livre relève de l'histoire critique et de la vulgarisation savante. Il rassemble des historiennes et historiens spécialistes pour examiner des mythes, des légendes noires et dorées, ainsi que des récits de fractures politiques et sociales. Son objectif n'est pas seulement de corriger des erreurs factuelles, mais de montrer comment certains récits historiques ont été fabriqués, simplifiés ou instrumentalisés au fil du temps. De l'Antiquité tardive au XXe siècle, l'ouvrage invite à lire l'histoire de France comme un champ de tension entre savoir, mémoire, usage politique du passé et construction du récit national. Il vise ainsi un large public tout en conservant une exigence scientifique nette. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, déconstruire les mythes fondateurs du récit national. La première force du livre est d'interroger les récits qui donnent l'impression que la France serait née d'un petit nombre d'événements décisifs et linéaires. Les chapitres consacrés à nos ancêtres les Gaulois, au baptême de Clovis, aux Mérovingiens, à Charles Martel ou à la guerre de Cent Ans montrent que ces repères scolaires ont souvent été transformés en origine absolue alors qu'ils relèvent d'évolutions longues, complexes et parfois très postérieures aux faits. Le livre explique ainsi que l'identité nationale n'apparaît pas d'un coup, mais se construit par sélection rétrospective, simplification et mise en récit. Cette approche est importante parce qu'elle révèle le caractère politique des origines supposées. Attribuer une naissance précise à la France permet de stabiliser un imaginaire collectif et de donner à la nation une continuité artificielle. En démontant ces fictions fondatrices, l'ouvrage ne nie pas les événements, mais replace chacun à sa juste place dans une histoire bien plus discontinue. Deuxièmement, comprendre comment se fabriquent les légendes noires, l'ouvrage consacre une partie importante aux légendes noires, c'est-à-dire aux portraits caricaturaux qui réduisent des personnages ou des périodes à une série de fautes, de violences ou de dépravations. Les chapitres sur les ombres au Moyen-Âge, Catherine de Médicis, Marie-Antoinette, Robespierre ou Napoléon, montrent que ces figures ont souvent été réinterprétées au gré des conflits idéologiques, des mémoires concurrentes et des besoins de polémiques. Le livre met en évidence un mécanisme récurrent, un personnage réel, doté d'une action historique incontestable, est transformé en symbole commode d'un mal politico-moral. Cette transformation facilite le jugement rapide, mais elle empêche de comprendre les contraintes, les contextes et les rapports de force. En étudiant ces constructions négatives, l'ouvrage aide à distinguer l'analyse historique de la condamnation mémorielle. Il montre aussi que la légende noire ne se contente pas d'éclairer le passé, mais sert souvent à rassurer le présent en désignant des coupables simples. Troisièmement, réexaminer les légendes dorées qui adoucissent ou blanchissent le passé. Le livre ne s'en prend pas seulement aux récits hostiles. Il examine aussi les légendes dorées, ces versions embellies de l'histoire qui transforment certains épisodes ou dirigeants en modèles de sagesse, de modernité ou de protection. Les chapitres sur Henri IV, Napoléon III, la responsabilité française dans la Première Guerre mondiale, Pétain et la question du sauvetage des Juifs français, ou encore la décolonisation présentée comme pacifique, rappelle que l'idéalisation peut être aussi trompeuse que la diabolisation. Ces récits fonctionnent parce qu'ils donnent une image rassurante du pouvoir ou de la nation, en effaçant les ambiguïtés, les violences et les continuités gênantes. L'intérêt du livre est de montrer que l'embellissement historique n'est pas un simple excès de nostalgie, il peut servir à justifier des choix politiques, à préserver une mémoire nationale flatteuse ou à minimiser des responsabilités collectives. Cette section fait ainsi comprendre que toute histoire héroïsée mérite autant de vigilance critique qu'une histoire accusatrice. Quatrièmement, repenser le peuple, les femmes et les soldats dans l'histoire sociale. Une autre dimension essentielle du livre consiste à corriger les récits qui prétendent parler au nom du peuple tout en simplifiant sa réalité sociale. Les chapitres sur les femmes, la Révolution française, les Parisiens encadrant le roi, les soldats partis la fleur au fusil en 1914, les combattants de 1940 ou la résistance concentrée en métropole montrent que l'histoire collective est souvent racontée à travers des images commodes, mais réductrices. Le livre rappelle que les acteurs historiques sont multiples, inégalement visibles et rarement unanimes. Il met en avant l'apport de l'histoire sociale et du genre, qui permet de sortir d'une vision masculine, nationale et centrée sur quelques épisodes héroïques. En particulier, le chapitre sur les femmes montre que leur absence apparente du récit national ne signifie pas absence d'action historique, mais effacement durable par les cadres de mémoire. De même, les images de soldats unanimes ou de résistance homogène dissimulent la diversité des expériences, des contraintes et des engagements. Le livre apprend ainsi à penser la société comme une pluralité d'acteurs plutôt que comme un bloc uniforme. En dernier lieu, identifier les fractures politiques et mémorielles qui prolongent les conflits du passé. La dernière partie du livre traite des fractures ouvertes, c'est-à-dire des querelles historiques qui continuent d'alimenter les affrontements politiques contemporains. Les chapitres sur les francs-maçons, les communards assimilés aux communistes, la gauche opposée au vote des femmes, la collaboration réduite à l'extrême droite ou la colonisation présentée comme bénéfique aux colonisés montrent que certaines idées reçues ne sont pas seulement des erreurs de mémoire, mais des instruments de combat idéologique. Leur fonction est de distribuer des responsabilités, de légitimer des camps et de simplifier des héritages complexes. En remontant aux origines de ces récits, l'ouvrage rend visible le lien entre histoire et politique. Le passé est sans cesse mobilisé pour soutenir des positions présentes. Cette partie est particulièrement utile pour comprendre les débats publics actuels, car elle explique pourquoi certains slogans résistent malgré les travaux des historiens. Le livre propose ainsi une méthode de lecture critique qui permet de identifier, derrière une affirmation apparemment évidente, l'intérêt, le contexte et la stratégie discursive qui la sous-tendent. En conclusion, France Fiction s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de France, mais plus particulièrement aux lecteurs qui veulent comprendre comment se fabriquent les récits collectifs, les enseignants, les étudiants, les médiateurs culturels et, plus largement, les citoyens confrontés à des usages politiques du passé. Son intérêt pratique est double. Il fournit des repères solides pour corriger des idées reçues très répandues et il donne des outils de lecture critique applicables aux discours médiatiques, scolaires ou politiques. Son intérêt intellectuel est tout aussi net, car il montre que l'histoire nationale ne se réduit ni à une suite de grands hommes, ni à un roman patriotique ou accusateur. Ce qui distingue ce livre d'autres ouvrages de démystification historique, c'est son architecture collective, la précision de ses spécialistes et l'équilibre entre accessibilité et exigence scientifique. Il ne se contente pas de contredire des clichés. Il explique comment ils naissent, pourquoi ils durent et à quoi ils servent. C'est cette articulation entre érudition, méthode et vigilance civique qui en fait un ouvrage particulièrement utile dans le paysage actuel des livres d'histoire grand public. Si vous souhaitez soutenir Yann Bouvier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.